Je vais vous demander de l'aide ce matin. Vous allez participer, on ne va pas faire un message comme d'habitude. Je vais prendre l'autre micro. Est-ce que tu peux le rebrancher, le micro de Daniel ? Merci. Oups. Tu peux afficher la diapo, s'il te plaît. Merci. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec ma voix. La clim a tué ma voix là pendant les chants. J'étais juste en dessous. Et donc je vous ai marqué deux versets de l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 19, cette parole forte, qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ? Et aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, toujours, je vous propose qu'on lise à partir du verset 11. Si vous avez vos Bibles, on va lire dans Luc, chapitre 7, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour, dans tout le pays d'alentour, la région. Jean-Baptiste, fut informé de ces choses par ses disciples. Il en appela deux et il les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ?» ou devant nous en attendre un autre. Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur fit cette réponse, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Qui est celui-ci ? Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu celui qui doit venir ? C'est une parole qui est forte, qui est importante dans la bouche de Jean-Baptiste et dans la bouche de tout le peuple d'Israël qui était là, qui vivait là à ce moment-là. Ils se demandaient qui était cet homme un petit peu qui montait en réputation, qui faisait des choses étonnantes et puis qui commençait à être bien connu. Et donc forcément, on se demandait, mais qui est-il ? Qui est-il ? Pourquoi il se posait cette question et pourquoi il pose cette question « Es-tu celui qui doit venir ?» Ça sous-entend « Es-tu celui qui doit venir ?» Ça sous-entend que pour tout Israël, pour le peuple, c'était évident que quelqu'un devait venir. D'où ça vient cette croyance ? D'où ça vient cette question ? « Es-tu celui qui doit venir ?» Le « celui », ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. C'est vraiment « le ». Le qui doit venir, l'unique qui doit venir. Tu peux mettre l'autre diapo, s'il te plaît. La diapo? Faut laisser le portable. Pardon, David. En fait, on va lire un texte dans le Deutéronome, donc bien, bien, bien longtemps avant, 1500 ans avant ce qu'on vient de lire. Il y a Moïse qui parle au peuple. Moïse parle au peuple d'Israël et il lui dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. » L'Éternel me dit « Ce qu'ils ont dit est bien. » Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Quand on examine le texte, on voit vraiment que c'est un texte parallèle. Et en fait, ce fameux « Es-tu celui qui doit venir ?» ça vient de là. Ça vient de cette prophétie de Moïse qui parle au peuple. Vous savez que le peuple était à Horeb, au Sinaï, et puis Dieu s'est manifesté de façon puissante. Il y avait les éclairs, le tonnerre, la lumière, le feu, la fumée sur la montagne. Il y avait un grondement de tonnerre qui donnait, qui était l'écho des paroles de Dieu, en fait. Et le peuple était transi de peur, j'allais dire. C'est pour ça qu'ils ont dit, Seigneur, ne te manifeste plus comme ça. Nous, on ne veut plus ça. Hein. Seigneur, on veut bien que tu agisses, mais pas comme ça. Des fois, nous aussi, on est comme ça hein, dans les églises. Hein. Seigneur, on veut bien que tu agisses, mais pas comme ça, s'il te plaît. Hein. J'ai des frères, je connais des frères et sœurs qui m'ont dit, moi, je veux bien que le Seigneur vienne avec son onction, mais je ne veux pas tomber, je ne veux pas rire. Je veux... Des fois, on est comme ça, et le peuple était comme ça. Seigneur, d'accord, mais... Et Dieu dit, ben, finalement, tu as raison de dire comme ça. Je te susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, donc bien au milieu des Israélites, un prophète comme toi, Moïse. Et Moïse dit donc un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, il dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Et Jésus va dire cette chose-là. Les aveugles voient, etc. Le royaume de Dieu est annoncé. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On retrouve cette notion d'occasion de chute dans ce verset. Et donc, Moïse va donner cette parole. Alors, cette parole, je vous l'ai dit, elle a été donnée 1500 ans avant Jésus. Pour vous donner un petit, parce que 1500 ans, pff, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Pour vous donner un petit aperçu de ce que ça signifie, cette prophétie, au niveau de son délai, de son timing, c'est un petit peu comme si, en France, du temps de Clovis, une prophétie avait été donnée. Ceux qui se souviennent des livres d'histoire, je ne sais pas si on fait encore Clovis maintenant dans les livres d'histoire actuels. Il y a eu pas mal de remaniements, je ne sais pas les profs s'ils savent. Mais Clovis, vous imaginez, hein ? Les Francs, la Gaule, etc. Enfin bon, les Visigoths, les tout, voilà, c'est ça. C'était il y a 1500 ans. C'était il y a 1500 ans. Donc vous voyez, c'est comme si on avait, nous, une prophétie qui a été donnée du temps de Clovis, et puis quelqu'un arrive là, et qu'on se dit, est-ce que c'est celui-là ? Ça fait quand même 1500 ans qu'on attend. Il y en a eu des prophètes depuis Moïse. Il y a eu Esaïe, il y a eu Jérémie, il y a eu Daniel, il y a eu... Hein, je ne vais pas citer toute la liste. Mais il y en a eu plein de prophètes. Et à chaque fois, Israël devait se dire, est-ce que c'est le prophète ? Ça fait 1500 ans. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une prophétie qui a été donnée du temps de Clovis et qui n'est toujours pas accomplie ? Et puis Jésus arrive, se manifeste, et les gens disent quand même, est-ce que cette fois-ci c'est le bon ? Alors on peut regarder, et Jésus, pour le démontrer, il va utiliser des... Il ne va pas répondre, il ne va pas dire « je le suis ». Il va faire des miracles. Il va faire des miracles, il va manifester la puissance de Dieu. Il va montrer que le royaume de Dieu est annoncé, il va dire, ben voilà, ça c'est la preuve qu'effectivement je suis celui qui était attendu. Mais on peut regarder dans la parole de Dieu, et là je vais demander, non pas pardon, mais enfin à ceux qui étaient dans la cellule de cet été où on a partagé à ce sujet, je vais leur demander de jouer le jeu, de ne pas donner toutes les réponses avant, mais on peut examiner en quoi Jésus est comme Moïse. Parce que c'est un des signes de sa messianité, un des signes de la messianité de Jésus, que c'est vraiment lui qu'Israël attendait, que c'est vraiment lui qui devait venir. Eh bien, ça nous saute aux yeux quand on compare finalement avec la vie de Moïse. Puisque Moïse lui-même avait dit de la part de Dieu, Dieu va envoyer un prophète comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire un prophète comme moi ? Alors c'est là où je vais avoir besoin un peu de votre aide et que je voudrais que ce ne sera pas un message comme d'habitude, mais où je voudrais un petit peu d'interaction. J'aimerais bien que vous me réfléchissiez pendant quelques instants et que vous me disiez, eh bien, en quoi on peut comparer Moïse et Jésus ? Et puis on va passer en revue. Alors on ne va pas être exhaustif, parce qu'il y a plein de choses. Mais méditons la parole de Dieu, réfléchissons un petit peu à la vie de Moïse, réfléchissons à la vie de Jésus et réfléchissons à quelles sont les comparaisons qu'on peut faire. Et en quoi on va voir qu'effectivement Moïse, cet homme unique dans le peuple d'Israël, était comme une préfiguration d'un autre homme unique, le Messie, Jésus. Alors on va essayer de le faire aussi. Je sens que vous êtes en train de réfléchir, hein. C'est pour ça que je joue un peu la montre, hein. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse un peu... Parce que moi, c'est facile, j'ai préparé, hein. J'ai un peu d'avance sur vous. Mais réfléchissons un petit peu en quoi Moïse et Jésus se ressemblent. Et en quoi on peut prendre des épisodes de la vie de Moïse et voir que Jésus a vécu la même chose, par exemple. Alors, on va essayer de le faire, si c'est possible, c'est pas grave si on le fait pas, mais de façon un petit peu chronologique. En tout cas pour le début. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris l'autre micro et que j'aimerais qu'il y ait un micro baladeur. Est-ce que quelqu'un veut, Farid, tu veux prendre le micro pour le passer dans la salle ? Tu peux peut-être dire la première chose si tu le sens. Mais...
Il est né dans le contexte où il a failli se faire zigouiller avant même de venir au monde.
Oui. Tout à fait. C'est une des premières choses qu'on peut remarquer de la vie de Moïse et de la vie de Jésus. C'est que ce sont les deux personnes, les deux prophètes dans la parole de Dieu qui sont nés et qui, juste après leur naissance, ont failli être assassinés par un dictateur, en fait, par un roi tout puissant et qui avait droit de vie ou de mort sur ses citoyens, j'allais dire, sur ses ouailles. Effectivement, Moïse, c'est d'ailleurs ce qui lui a donné son nom. Moïse, vous vous souvenez de cette histoire, hein, où le pharaon voulait que tous les enfants mâles qui naissaient soient tués, et puis où il avait prévu que voilà, donc Moïse devait mourir, en fait, bébé, et puis il a été mis dans le fleuve, vous vous souvenez, récupéré par la fille du pharaon, et Moïse a été, ça s'appelle Moïse, Moshé, parce qu'il a été tiré de l'eau, en fait. Et Jésus, pareil, du temps de sa naissance, eh bien, Hérode a essayé de faire assassiner tous les enfants de moins de 2 ans de la région de Bethléem. Et ça a été un drame, sauf que Jésus, lui, a été sauvé parce que Joseph a été averti et il est parti en Égypte pour se sauver et pour passer à travers. Donc, Farid, bravo. Autre chose. Joëlle, elle sourit parce qu'elle était à la réunion, alors elle doit dire, attends, mince, j'ai pas bien retenu tout. Alors.
Il a été le sauveur du peuple hébreu.
Oui. Oui, on peut dire ça. On peut dire, effectivement, tous les deux ont été sauveurs du peuple d'Israël, à leur façon, mais effectivement... Moïse a été un sauveur dans le sens où il a amené le peuple hors d'Égypte et qu'il l'a conduit jusqu'à l'entrée du pays de Canaan, du pays promis. Et Jésus, d'une façon spirituelle, nous a fait sortir du péché, de l'esclavage et nous a amené jusqu'à l'entrée en fait du pays promis, jusque dans le pays promis où on est sauvé, pardonné. Allez, un autre.
Autant le ministère de Jésus que le ministère de Moïse, il ne s'est pas révélé tout de suite. Il y a eu un temps de silence.
Oui.
Puis après, il y a eu un temps où il y a eu le passage par le désert. Et c'est là où il y a des choses qui se sont passées autant pour l'un que pour l'autre.
Tout à fait, tout à fait. Il y a eu tout ce temps d'attente, de croissance, d'éducation, etc. Ce temps de désert, et dans ce temps de désert, suite au temps de désert, il y a la manifestation vraiment du ministère. Et c'est tout à fait ça pour Moïse. On se souvient du buisson ardent, on se souvient de Moïse qui est resté 40 ans, etc. Et puis qui, là, est rentré. Et Jésus, 40 jours. Moïse, 40 ans dans le désert. Jésus, 40 jours à jeûner dans le désert. Et ensuite, il sort pour son ministère.
Tous les deux ont fait des miracles.
Tous les deux ont fait des miracles, tout à fait. On va en reparler. Mais tous les deux ont fait des miracles. Et il n'y a pas énormément de prophètes d'Israël qui ont fait des miracles. Il y en a eu. Il y en a eu des grands prophètes de miracles, hein, Élie, Élisée. Mais leur vie ne correspond pas sur plein d'autres points. Mais c'est vrai, tout à fait. Juste une chose, parce que ça, je pense que ça ne va pas sortir. Enfin, je ne sais pas. C'est pour revenir un petit peu à la chronologie. C'est que tous les deux ont été appelés hors d'Égypte. Il est dit de Moïse, bien sûr, qu'il est sorti d'Égypte, qu'il a été appelé hors d'Égypte. Et cette parole prophétique, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il est parlé d'Israël, mais bien sûr, il est parlé aussi de Jésus. C'est pour ça que Jésus, quand il était bébé, pour se sauver et être safe, être sauf, a été en fait se cacher avec Joseph et Marie en Égypte. Et ensuite, une fois que le roi qui voulait le tuer n'était plus, eh bien, Jésus a été appelé hors d'Égypte. Donc les deux sont sortis hors d'Égypte pour venir vers Canaan, vers Israël.
Tous les deux parlaient directement à Dieu. Non seulement ils parlaient, mais ils l'entendaient. Ils avaient une conversation avec Dieu.
Tout à fait. Face à face. Face à face. Hein, il nous est dit de Moïse qu'il voyait Dieu face à face. Et d'ailleurs, il était resplendissant. Et Jésus, ben, c'est exactement la même chose. Effectivement, il avait une relation d'intimité incroyable avec le Père comme personne n'a eu. Oui. C'est bien, c'est bien.
Je pense que Moïse et Jésus étaient des grands sportifs. Ils aimaient la marche et ils aimaient le trekking. Ça grimpait là. Donc ça veut tout dire. En grande forme. Très grande forme. Et voilà, on peut penser ce qu'on veut après. Mais c'est quelque chose à noter. Hein, bien dans sa tête, bien dans son corps.
Voilà. Tout à fait. Alors j'avoue que ce point-là, je ne l'ai pas dans mes notes. Hein. Donc merci d'en avoir rajouté. Hein. Mais c'est vrai que c'est une des réflexions qu'on s'était fait avec Cathy en Israël. C'est qu'Israël, c'est un tout petit pays, certes. Mais quand on va de la Galilée à Jérusalem et qu'on lit dans l'Évangile ben, « Jésus retourna de Jérusalem à la Galilée », on lit ça en quelques lignes. C'est vrai que finalement, le faire à pied, ben, il fallait le faire. Quoi. Ça ne se faisait pas en une demi-journée. Quoi, hein, et c'est vrai. Donc, alors après, tout ça, on doit en tirer des leçons. Donc, est-ce que ça signifie que le chrétien doit être aussi en forme physique et doit faire du sport et... Je laisse à chacun les conclusions. Et du trekking, je laisse à chacun les conclusions. Le micro est par là ?
Ouais. En fait, ils étaient totalement obéissants à ce que Dieu leur disait de faire.
Oui.
Et c'est pour ça que les miracles arrivaient. Quoi. Ils se posaient oui. Pas de questions.
Oui.
Ils obéissaient à ce que Dieu leur disait, dans les deux sens. Quoi. Quand
c'est
Dieu
vrai.
Dit, quand Moïse dit, je lève mon bâton pour ouvrir les eaux, en fait, Moïse ne savait pas du tout. C'est un acte de foi. Comme Jésus, quand a pris de la boue par terre, il ne savait pas du tout que l'aveugle allait guérir, mais il savait qu'il fallait le faire. C'est mon opinion, c'est ce que je pense. L'obéissance, la clé du miracle, qui est un point de comparaison entre
les deux.
Je
pense que Jésus savait ce qu'il allait faire, mais effectivement, l'obéissance à Dieu, oui.
Je pense qu'il savait, mais il ne savait pas pourquoi il prenait de la boue. Moi, c'est mon opinion.
Ok.
un autre, le point commun, l'obéissance.
Tout à fait, ça oui, tout à fait. Un point que vous n'avez pas cité, pareil, je reviens un peu à la chronologie. Tous les deux ont renoncé au privilège d'habiter dans la maison des rois et d'être roi et d'être prince et d'être humainement reconnu. Moïse, qui était adopté par la fille du pharaon, qui a été élevé donc dans la maison du roi, j'allais dire, d'Égypte, du pharaon, a renoncé à ça pour servir le peuple. Et de la même façon, Jésus, fils de roi, roi d'Israël, roi du ciel et de la terre, roi des rois, a renoncé à sa royauté pour un jour être couronné d'épines et pour servir le peuple aussi. Donc les deux ont refusé cet hommage. Le seul hommage de roi, entre guillemets, que Jésus a reçu, c'est quand il est entré à Jérusalem, quand il y avait les feuilles de palmier, là, les branches de palmier, qu'on a crié « Hosanna au fils de David », etc. Mais bon, il était monté sur un petit âne. Hein. Et son tapis rouge, c'était les vêtements des gens, simplement. Les mages aussi. C'est vrai qu'il a eu à sa naissance un hommage de roi, effectivement.
Ils ont connu la contradiction aussi. Les deux, oui. Y compris dans leur propre famille. Même Aaron, Myriam. Enfin.
Tout à fait, tout à fait.
Et Jésus aussi.
Les gens, ce point, je ne l'ai pas non plus, mais effectivement, Aaron et Myriam notamment, et les gens de son peuple, se sont rebellés contre Moïse, de la même façon que Marie et ses frères, pendant un temps, se sont opposés à son ministère, ont essayé de le calmer et de l'amener chez le psychologue. Hein, pour tout à fait. D'autres choses? Oui, le micro, s'il te plaît.
Quand il pose la question, es-tu celui qui doit venir,
hein? Oui.
Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, mais immédiatement, il est dans l'action. Il se guérit, il fait des miracles. Immédiatement, on voit qu'il possède déjà toute la puissance de Dieu le Père. Hein.
Oui. Mais là, la comparaison avec Moïse, c'est quoi?
La comparaison avec Moïse, moi je pense que les choses qui étaient quelqu'un qui n'entend pas, quelque chose de mort, il le rend vivant.
D'accord.
Je ne sais pas si Moïse faisait ça.
Ok. Ce que tu dis juste après, la comparaison là, avec Moïse est un peu plus difficile à voir. Mais avant d'entrer encore un peu plus loin, une des choses qui est assez frappante, c'est qu'on parlait des miracles. Moïse a fait des miracles, Jésus a fait des miracles. Et au tout début de leur ministère, ils ont fait des miracles assez particuliers. Vous vous souvenez des premiers miracles de Moïse, c'était les 10 plaies d'Égypte. Et dans les 10 plaies d'Égypte, il y a notamment cette eau qui s'est changée en sang. Vous vous souvenez de ça? L'eau changée en sang, une des 10 plaies. Et quel a été le premier miracle de Jésus? L'eau changée en vin. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est quelque chose d'assez significatif que eux seuls ont fait. L'eau changée en sang, l'eau changée en vin. Et quand on connaît après la suite de l'histoire et la comparaison du vin et du sang, on en parlera à la fin du culte, c'est assez impressionnant. Oui.
Tous les deux ont traversé la mer sans se mouiller.
Tout à fait. Il y a eu beaucoup de miracles d'eau, de l'eau, avec de l'eau entre Moïse et Jésus. Effectivement, Moïse a traversé la mer à sec. Jésus a traversé la mer en ayant juste peut-être les sandales mouillées, quoi, hein, finalement. Alors, on peut rebondir là-dessus aussi et dire que tous deux ont sauvé de la mer, j'allais dire. C'est-à-dire que Moïse, effectivement, la mer s'est ouverte, parce que sinon, derrière, il y avait le pharaon, le peuple était là, et il y avait la mer, et c'était la mort. Et il y a Jésus qui avait la tempête, vous vous souvenez de la tempête, et les disciples crient. Pourtant, ils sont aguerris, c'est des pêcheurs, hein, c'est des gens dont c'est le métier. Donc, je veux dire, les tempêtes sur le lac de Galilée, certes, de temps en temps, elles sont fortes, mais voilà, c'est quand même, à crier, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» C'est que vraiment, ils allaient y passer, quoi, au bouillon. Et Jésus, stop. Il dit à la mer, stop. Il ne lui dit pas, ouvre-toi, parce que là, il n'y avait pas de roue au bateau, ça n'aurait pas été pratique. mais il a calmé la tempête et ils ont pu traverser. Donc il a fait traverser la mer à des gens, les deux ont fait traverser la mer à des gens qui ne pouvaient plus traverser ou qui ne pouvaient pas traverser.
Tous les deux ont été des enseignants pour le peuple. Ils ont amené la parole de Dieu.
Tout à fait.
Leur façon.
Tout à fait. Je vais aller un peu plus loin et rebondir là-dessus pour dire que non seulement ça a été des enseignants, mais ils ont donné une loi. Ils ont donné une loi, tous les deux, au peuple. Il y a la Torah, les 10 commandements et toutes les mitzvot, tous les commandements donnés par Moïse. Et puis il y a la loi de l'évangile, j'allais dire, qui est une confirmation quelque part. Hein, souvenez-vous, il a été écrit, mais moi je vous dis, il a été écrit, mais moi je vous dis. Jésus ne fait que confirmer à chaque fois la loi de Moïse, en la réorientant, on le sait bien, dans la Nouvelle Alliance, mais il y a vraiment, voilà, tous les deux ont été, on appelle ça législateurs. Et il n'y a que deux, il n'y en a pas d'autres qui ont été législateurs. Il y a eu Moïse et il y a eu Jésus, aucun autre. Les commandements. Alors il ne l'a pas rajouté, c'est quoi ce, donne le micro, c'est intéressant.
Enfin, le commandement qu'il a rajouté, on ne peut pas dire qu'il l'a rajouté, mais c'est un commandement qui résume tous les autres, en fait.
Et c'est quoi ?
Comment le citer ? Aime ton prochain comme toi-même.
Voilà. Alors, en fait, oui. C'est intéressant de dire ça, parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens croient, que Jésus a rajouté le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Beaucoup de gens le croient. C'est faux. C'est un commandement de l'Ancien Testament. C'est dans la Torah. Aime ton prochain comme toi-même. Oh, il y en a qui sont sceptiques. Allez vérifier. Si quelqu'un a une concordance online, là, allez vérifier. Jésus n'a rajouté aucun commandement. Il a réorienté, j'allais dire, il a apporté la grâce, c'est-à-dire le salut, non pas par l'obéissance aux commandements, mais par son sacrifice. Mais voilà, c'est intéressant.
Je pense que Moïse et Jésus, bien sûr, ont connu des fins un peu spéciales, puisque Moïse est mort, on ne sait plus où est son corps, voilà, bizarre. Et Jésus, il y a eu la crucifixion, le corps n'était plus là, la résurrection. Mais on sent que ce sont deux personnages qui ne se quittent pas dans l'Ancien Testament. On retrouve, par exemple, Moïse et Élie, alors que Jésus est avec deux disciples sur le mont Tabor au Carmel.
Oui, c'est ça, le mont Tabor.
Voilà. Et alors, en fait, nous, on se base sur cette idée de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais la vie de Jésus ne s'arrête pas là, en fait. Je dirais qu'il y a le cinquième évangile, entre guillemets, c'est-à-dire l'Apocalypse, où on retrouve encore ce fameux cantique de Moïse. Donc voilà, ils ne se lâchent pas les uns les autres. Sont tellement...
Tout à fait, voilà. C'est complètement ça. Effectivement, je le dirai en disant qu'après leur mort, Dieu s'est occupé de leur corps. C'est exactement la même chose, parce qu'effectivement, on ne sait pas où Moïse a été enterré, mais il est bien mort, et c'est Dieu qui s'est chargé de son ensevelissement. Et de la même façon, ben, c'est Dieu qui s'est chargé du corps de Jésus, j'allais dire, en le ressuscitant, là.
Ils ont intercédé auprès du Père pour le peuple ?
Oui.
Très souvent.
Tous les deux ont intercédé auprès du peuple pour... oui, tout à fait. Allez, on a encore un peu de temps, hein ? Ah, ceux qui n'ont pas encore, ou après Marie, après d'abord Geoffrey, qu'on est content de retrouver d'ailleurs. Bienvenue Geoffrey.
Ils ont tous les deux fait un miracle où ils nourrissaient beaucoup de gens.
Tout à fait.
Enfin, plusieurs miracles.
Tout à fait. Il y a la manne qui est tombée, le miracle de la manne. Le pain, écoutez bien ce que dit Moïse, le pain descendu du ciel, la manne. Moïse donne à manger au peuple et Jésus, lui, va multiplier le pain, effectivement, pour nourrir la foule affamée. Mais cette correspondance entre la manne, le pain descendu du ciel, et Jésus qui dit non, mais Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est Dieu qui donne le pain du ciel, c'est le Fils de l'homme, et si vous mangez ma chair, buvez mon sang, etc. Donc il y a vraiment là, effectivement, une correspondance très très forte. Et ça, je réfléchis vite, mais à ma connaissance, c'est aussi les seuls dans la parole de Dieu. Élie a été nourri par Dieu dans le désert, par les corbeaux, mais la manifestation de nourriture du pain au peuple, du pain qui descend du ciel, c'est Moïse et c'est Jésus. Marie.
Juste en paraphrasant, j'ai l'impression que tous les deux, il y en a un, Moïse, il a dit à Dieu, écoute, si tu ne viens pas avec nous, on ne bouge pas. Et Jésus, il a dit, quand il, si tu veux, j'aimerais bien que cette coupe s'éloigne de moi, quoi, mais ta volonté. J'ai l'impression qu'ils nous ont appris à discuter, à contester Dieu. Enfin, à contester, à dire, je ne suis pas d'accord. Quoi, hein. Si on peut faire autrement, ça serait bien. Et Dieu se laisse interpeller.
Et Dieu n'a pas changé d'avis quand même.
Mais oui.
Heureusement.
Mais oui.
Mais c'est vrai qu'ils avaient cette relation très particulière avec Dieu, d'une grande liberté l'un avec l'autre vis-à-vis de Dieu, c'est sûr. Il y en a d'autres ? Alors, juste pour revenir un peu, enfin, pas en arrière, puisqu'on est dedans, mais quand on parlait des deux qui ont été des enseignants, qui ont été, j'ai dit, des législateurs, les deux ont été médiateurs d'une alliance. Et ça aussi, dans le cadre d'Israël, ce sont les seuls. Moïse a été médiateur d'une alliance au Sinaï. Jésus a été médiateur d'une alliance nouvelle. Et ça aussi, ça c'est, je veux dire, c'est quelque chose d'énorme. C'est les deux seuls aussi. Donc là, on peut dire un prophète comme Moïse, vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore ? Le micro, c'est possible d'avoir le micro ? Tu peux donner à quelqu'un d'autre, Farid, hein ? C'est Martine. L'autre Martine. D'entre les frères, oui. Pourquoi ça te frappe ?
Bon, chez Moïse, il n'y a pas eu de problème, que ce soit avec Aaron. Mais chez Jésus, le peuple n'avait pas lu ça, que Jésus se ressuscitait d'entre les hommes banalement. Enfin, on disait, qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? Lui, le fils des charpentiers. Je veux dire, il y avait un peu un mépris vis-à-vis de Jésus, parce qu'il n'était pas extraordinaire. Il avait des frères, des sœurs, voilà.
Tout à
comme
fait.
Moïse. Enfin.
Alors, entre tes frères, du milieu de toi déjà, ça veut dire du milieu d'Israël, puisque Moïse la parle à Israël. Donc du milieu des peuples, du peuple, des Israélites, et entre tes frères. Donc effectivement, on peut quand même aller même encore plus loin, c'est-à-dire que Moïse est de la descendance par sa mère, de la descendance de Lévi, donc de la même famille, de la descendance d'Aaron. Donc Jésus est prêtre de ce côté-là aussi, j'allais dire, par sa mère, hein, puisque sa mère était la cousine d'Élisabeth. Élisabeth avait un fils, Jean-Baptiste, qui était donc le cousin de Jésus et dont le père était grand prêtre. Vous souvenez, il était dans le temple, etc. Donc on voit qu'il y a une lignée, il est de la lignée et donc vraiment bien entre tes frères. Ce qui est différent de Moïse, ceci dit, là c'est vraiment la lignée d'Aaron. Oui.
Ils étaient tous les deux bergers.
Oui. Ça, je n'avais pas noté, mais oui, on peut le dire. Oui, tous les deux ont été bergers. À la fois, enfin, berger, Moïse a été berger à la fois du peuple et il s'est occupé de troupeaux, de vrais troupeaux. Jésus a été berger, effectivement, du peuple et est toujours notre berger. Les deux étaient des hommes très humbles. Il est dit de Moïse qu'il était l'homme le plus humble. Et Jésus aussi s'est humilié, n'a pas regardé sa position, il s'est humilié, abaissé, tout le temps pour servir.
Ils ont incité à regarder au bois, le serpent d'airain et Jésus qui...
Oui, tout à fait. Il y a l'histoire du serpent d'airain que Moïse a élevé, vous savez, quand il y avait cette épidémie dans le peuple, et tous ceux qui regardaient vers le serpent élevé, était guéri de la même façon. Tous ceux qui regardent vers Jésus élevé en croix sont sauvés. Chacun a été juge. Chacun est juge. Non seulement ils ont été législateurs, c'est-à-dire donner une loi, mais en plus, Moïse, vous vous souvenez, il devait juger, même son beau-père va lui dire « mais tu vas te tuer à faire tout ça, délègue un peu, démultiplie, etc. » Et donc Moïse était juge dans le peuple aussi. Et Jésus aussi, c'est celui qui nous juge avec la grâce, donc on est sauvé, mais c'est le juge qui jugera le monde au dernier jour. Ils ont été haïs tous les deux, oui, on l'a dit un petit peu, ils ont été critiqués et rejetés par leur famille, par leur peuple aussi, oui. Voilà, alors ça on va le garder pour la fin. Mais je cherche hein, si je trouve. Les deux sont qualifiés par la Bible comme étant de fidèles témoins de l'Éternel. Bon, c'est une chose en plus. Est-ce que vous voyez d'autres choses? C'est sûr qu'il y en a d'autres, hein, je cherche dans toute ma liste que j'ai faite. On peut prendre le micro?
Les deux conversaient directement avec Dieu.
Oui, on l'a un peu dit tout à l'heure. Oui, oui, oui. Bon, je crois qu'on arrive un peu à la fin de ma liste, mais il y en a encore sans doute. Hein. Moi, je ne suis pas exhaustif.
On avait parlé aussi des 40 ans dans le désert et des 40 jours du désert de Jésus.
Oui, 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 on l'a dit. Oui, 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 oui. Tout à fait. Enfin, on a parlé des 40 ans avant de rentrer dans le ministère, donc les 40 ans de Moïse dans le désert, avant. Mais effectivement, après, il y a les 40 ans avec le peuple avant de rentrer dans le... Et les 40 jours de Jésus. Oui, Mick.
Donc, si on compare à aujourd'hui, ça a été un peu c'était des stars, finalement. Et il y a beaucoup de gens qui les ont suivis. Ils ont eu aussi beaucoup de grands moments de solitude où ils étaient tout seuls et confrontés à eux-mêmes.
Tout à fait, tout à fait. Effectivement. La Bible dit aussi que tous deux ont administré la maison de Dieu. Bon, je donne des choses écrites hein, dans la Bible. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais noté. Il y en a sûrement d'autres, on n'est pas exhaustif. Mais j'avais envie de partager ça pour nous remémorer plusieurs choses. D'abord, nous remémorer l'importance de l'écriture et de voir que l'écriture, elle ne parle pas en rien. Elle ne parle pas dans le vide. Et que ce n'est pas un hasard si les disciples, les Israélites qui étaient là autour de Jésus, et notamment Jean, disaient « Mais es-tu vraiment celui qui doit venir ?» D'ailleurs, pour Jean-Baptiste, c'était un peu compliqué parce que, justement, lui, il avait en esprit « Es-tu celui qui doit venir ?» Ce sera un prophète comme Moïse. Et Moïse, j'allais dire, il a ouvert la mer. C'est pas lui qui a conquis le terrain, mais Josué après lui et Caleb, etc. Donc il y a eu tout ce moment de délivrance du peuple. Et c'est vrai que beaucoup des Israélites de l'époque se disaient, donc, le Messie, s'il vient dans notre période, il va nous délivrer des Romains. Et non. Il a délivré d'autres choses, autrement. Et donc, pour faire cette comparaison, ce n'était pas évident pour les gens de l'époque. Et ce n'est toujours pas évident pour les Israélites aujourd'hui. Mais justement, de comparer vraiment, on voit que personne d'autre dans l'histoire de l'humanité ne ressemble autant à Moïse que Jésus. Et que l'Écriture, elle est certaine, et que notre foi est certaine. Et que Jésus est bien celui qui devait venir. Et que c'est extraordinaire. Quelqu'un d'autre a eu quelque chose qui est venu entre-temps ? Oui, ah, vas-y.
Dans Nombre, on voit que Moïse dit, voici comme vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour accomplir ces choses et que je n'agis pas de ma propre initiative. Et le parallèle avec Jésus, ce qu'on a vu dans Luc.
Tout à fait. Ce que je vois faire au Père, on peut aller même plus loin avec cette phrase. Ce que Moïse voyait, ce qu'il a vu sur la montagne, Dieu lui a dit ce que tu as vu en haut, mets-le en pratique en bas, fais-le en bas. Et il a vu quoi en haut ? Il a vu le tabernacle, il a entendu les commandements, etc. Et tout ça, Moïse l'a transmis. Et Jésus a fait la même chose. Tout ce qu'il voyait faire au Père, il le faisait. Donc effectivement. Encore ? Oui, oui, oui. C'est un petit peu différent, mais effectivement, pour Moïse, ça a été le veau d'or. Pour Jésus, on pourrait dire que ça a été Mammon, puisqu'il dénonce Mammon au niveau du temple, effectivement, au lieu d'adorer Dieu qui avait ce... Voilà, juste pour vous confirmer ce que... Je disais tout à l'heure, hein, Lévitique 19, 18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc c'est bien un commandement dans Lévitique de la Torah. Ce n'est pas une nouveauté qu'a apporté Jésus. Non, Jésus n'a apporté aucune nouveauté. Il a juste accompli, fait ce qui devait être accompli et ouvert cette alliance qui était réservée aux Israélites, aux païens que nous sommes, la plupart d'entre nous, pas tous. Alors on va terminer par le dernier, peut-être le plus grand en sens, c'est effectivement le sang. Les deux ont fait l'expiation, et notamment les deux ont fait la Pâque. Moïse a reçu de Dieu, tu prendras le sang d'un agneau, et tu le mettras sur les linteaux, les poteaux, des portes, et l'ange passera, et tous ceux qui seront dans la maison ne seront pas détruits, les premiers-nés vivront, etc. Et Jésus va, justement, au moment de la Pâque, de Pessah, il va accomplir ça aussi. Il va être lui-même l'agneau de Dieu, dont le sang est mis sur nos vies, sur nos familles, et que ce sang mis sur nos familles, c'est une garantie de salut. Et je trouve ça assez extraordinaire. Le sens, la profondeur, on a déjà parlé de Pâques, hein, parce qu'on peut faire plus qu'un message entier là-dessus, on peut en faire des dizaines, donc on le passe très rapidement. Mais ce comparatif entre la Pâque de Moïse et la Pâque de Jésus, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment prophétiquement unique. Et il n'y a que deux qui ont fait ça. Qui ont institué une Pâque. Moïse a institué une Pâque que le peuple a gardée et garde encore jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus a institué, j'allais dire une autre Pâque, non, c'est la même Pâque, mais il l'a manifestée autrement, une autre Pâque, qui est celle qu'on va partager maintenant. On va partager le pain et le vin. Peut-être l'équipe de louanges peut revenir. On va chanter, puis on va terminer le culte tranquillement avec ça. C'est super les Écritures, hein ? C'est incroyable la Bible, d'une richesse extraordinaire. Merci Farid.